France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Nous sommes au Festival du Livre de Paris sur le stand de Radio France après la Foire du Livre de Bruxelles la semaine dernière. Émission que vous pouvez retrouver en podcast, balado-diffusion. On valorise encore la francophonie et le Québec, invité d'honneur ici cette année. Et le public de Paris qui est avec nous. Bonjour Paris. C'est pas mal. Voici le sommaire de cette nouvelle escale culturelle et littéraire.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Nous sommes avec Philippe Djian qui publie un nouveau roman dans un style fascinant avec un souffle et une liberté totale. Il explore la complexité des relations familiales et amoureuses sur une île en pleine tempête. Gaël Faye est aussi avec nous pour l'adaptation en BD de son roman à succès Petit Pays avec la scénariste Majena Soa. Nous parlerons notamment du Rwanda, 30 ans après le génocide des Tutsis. Bonjour Gaël Faye.
Bonjour.
Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous pouvez applaudir Gaël Faye. Merci pour votre fidélité à la librairie francophone. On parlera de cette BD incroyable, hein, qui a mis énormément de temps à être réalisée. D'ailleurs, elle est magnifique. Nous recevrons aussi Véronique Ovaldé pour son nouveau livre, un recueil de nouvelles qui explore des vies imparfaites. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Nous sommes tous imparfaits, Véronique. C'est la logique de la vie.
Bien sûr, oui. mais c'est pas non plus tragique.
Non ?
Non, nous sommes imparfaits.
Très bien, on verra ça tout à l'heure avec vous. Comme je vous le disais, le Québec est l'invité d'honneur de ce Festival du Livre de Paris. Nous avons donné carte blanche à notre chroniqueur de luxe de l'Académie française. Bonjour Dany Laferrière.
Bonjour.
Gros succès pour Dany, vous êtes venu avec une invitée surprise. J'ai appris son nom ce matin et vous allez l'interviewer avec moi en toute liberté tout à l'heure, c'est ça ?
Je ne fais rien qu'en toute liberté.
Évidemment. Et on commence donc avec l'actualité francophone de la semaine. C'est évidemment le Festival du Livre de Paris. Le Québec est l'invité d'honneur cette année, ce qui est parfait pour la librairie francophone. Jean-Baptiste Passé, directeur du Festival du Livre de Paris, et Geneviève Pigeon, présidente de l'Association nationale des éditeurs de livres du Québec, sont avec nous. Bonjour à vous deux.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Geneviève, merci d'être avec nous. Jean-Baptiste, tout le monde me dit ici, depuis hier, que c'est une édition très librairie francophone. Merci pour cet honneur d'abord.
Absolument, absolument.
Et merci pour le Québec, plus sérieusement. Pourquoi le Québec est invité cette année ?
Eh bien précisément pour mettre la francophonie à l'honneur. 25 ans après la dernière invitation du Québec à Paris, le paysage éditorial a complètement changé. Il y a une nouvelle génération d'auteurs, d'éditeurs, et c'est ce que nous avions envie de célébrer.
Geneviève Pigeon, le monde de l'édition en France porte de plus en plus les auteurs québécois. À notre grande joie, le lien culturel entre la France et le Canada s'intensifie. Vous le ressentez comme ça, vous ?
Oui, absolument. Oui, oui, c'est beaucoup plus facile qu'auparavant. Les échanges sont plus fluides. On se comprend mieux, je crois.
Il était temps que les auteurs du Québec soient valorisés autant que les autres écrivains francophones.
Évidemment.
Qu'est-ce qui a changé, Jean-Baptiste Passé, dans ce domaine ?
Eh bien, on dit que les auteurs québécois ont le vent dans les voiles. Donc, depuis, je crois, plusieurs années, mais là, c'était très frappant, la dernière entrée littéraire, avec Éric Chacour, avec Kevin Lambert. Il y a vraiment deux livres très publicités par les libraires. Donc, on sent vraiment qu'il y a une effervescence. Il y a Hélène Dorion qui est au programme du bac de français. Il y a vraiment beaucoup de signaux faibles qu'il nous semblait être important de sublimer.
Et nous allons aider d'ailleurs les lycéens parce qu'on va recevoir Hélène Dorion dans une forêt prochainement, juste avant le bac de français, pour donner des clés justement aux lycéens. Formidable. On diffusera ça dans l'émission prochainement. Geneviève, pensez-vous que c'est le travail des éditeurs ou les thèmes portés justement par les auteurs québécois qui ont rendu cette littérature un peu plus universelle, un peu plus ouverte sur le vieux continent, comme on dit?
Vous me permettrez de parler à titre d'éditrice.
Bien sûr.
Je pense que c'est le travail des éditeurs, mais qui permet que ces voix particulières soient bien entendues outre-Atlantique. Donc, c'est un travail acharné qui dure depuis des décennies, dont on récolte les fruits maintenant, mais ce n'est pas le fruit du hasard. Donc, il y a réellement un travail de fond considérable, constant. De la part des éditeurs.
Et le Festival du Livre de Paris s'est inspiré du Salon du Livre de Montréal, Jean-Baptiste. Bah, vous étiez à Montréal en novembre, on s'était vu.
Pour une émission qui était bouleversante, Emmanuel. Et en effet, on essaie de s'inspirer des meilleurs. Donc voilà, on a parlé d'admiration lors de l'inauguration. Et c'est vrai qu'on est très très heureux. Et la collaboration avec nos homologues québécois est féconde.
Bon, merci beaucoup. Bon festival à vous.
Merci
Jean-Baptiste
merci.
Passé, Geneviève Pigeon, que vous pouvez applaudir. Bon Festival du Livre de Paris. Bravo à vous, Jean-Baptiste.
Merci Emmanuel, merci beaucoup.
Merci à vous. Et voici nos libraires. Quatre libraires sont avec nous comme chaque semaine. Bonjour Thomas Hausser.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la France, libraire à Puteaux, pas très loin d'ici, dans la librairie Lamandier.
Exactement.
Et à Puteaux.
Ça va plutôt bien.
Ça va plutôt bien. Merci pour cette blague récurrente. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Belgique dans la librairie Le Public à Bruxelles et vous êtes avec nous au
carrément.
Festival du Livre de Paris. Vous
juste
avez des fans, regardez, ils vont vous applaudir. Je suis sûr que vous avez des fans. Oui, regardez. Eh oui. Au Québec, c'est Josiane Nétourneau qui est avec nous et qui était à Bruxelles avec nous la semaine passée, qui est rentrée travailler dans la librairie Pauline à Montréal. Bonjour Josiane.
Oui. Bonjour Emmanuel.
Ça va bien quand même?
Oui, ça va bien quand même. Merci.
Bonjour Annick Vermeaux.
Un joyeux bonjour de Suisse, Emmanuel.
Un joyeux bonjour du Festival du Livre de Paris à vous. Vous êtes libraire à Martigny dans la librairie Zalactoré. Et vous n'avez pas aimé tous les livres cette semaine, je crois. On va voir ça ensemble. On verra ça. Merci d'être avec nous. Voici Philippe Djian avec une musique tourmentée qu'il cite dans son nouveau roman.
Taught me so much about you. Taught me so much about love, and yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing. And yet I learned nothing.
Et bonjour Philippe Djian.
Bonjour.
Sur cette musique de l'artiste britannique Fink que vous citez dans votre roman. J'ai découvert cet artiste grâce à vous Philippe. Votre nouveau roman Faites vos jeux qui vient de sortir chez Julliard et il nous emmène comme ça sur une île quelque part. On imagine cette musique, une île peut-être en Bretagne, peut-être ailleurs. Et là-bas, il y a un vieil homme qui laisse croire à son fils qu'il perd la tête, qu'il devient grabataire. Il veut une bonne fois pour toutes s'affranchir de ses enfants, cet homme-là.
Je peux comprendre. Hein. Les enfants, ce n'est pas toujours drôle. Et en même temps, il n'y a pas que son fils, il y a sa fille aussi. Donc, il va avoir deux problèmes à résoudre. Ben voilà, ce n'est pas en Bretagne, je suis désolé.
Non.
Mais ça ressemble un peu à la Bretagne.
Oui. C'est plutôt vers les États-Unis, je crois.
Bah, en fait, c'est un truc que j'ai un peu inventé. Mais c'est vrai que je me suis servi d'une... Ouais. J'ai vécu un petit peu à Martha's Vineyard pendant un moment. Donc, mais ce n'est pas ça non plus. À chaque fois, il faut retrouver sa liberté par rapport à la géographie, c'est pas simple.
C'est vrai. Alors, je me suis vu en Bretagne, hein, grâce à vous, mais chacun peut imaginer où il veut. Il y a Jonas et Edith qui ont été laissés à leur père par une mère trahie qui décide de partir, de quitter son mari infidèle et d'abandonner ses enfants au passage. Et Victor, le père, ne va pas trop savoir s'en occuper. Il renonce à leur éducation. C'est un sale type, Victor ?
Non, je crois pas que c'est un sale type. C'est quelqu'un qui a vieilli, qui pense que s'il lui reste que quelques années, autant les passer bien. Et ce qu'il n'ose pas dire à ses enfants, c'est qu'il a trouvé, il fait l'idiot parce qu'il a trouvé une femme qui vit aussi sur l'île et qui, avec laquelle il se met très bien en couple.
Ouais.
Donc les enfants sont des emmerdeurs, mais pas que dans ce cas-là, mais souvent. Et ça lui pose un problème.
Il y a le fils qui ne se sent pas prêt de s'occuper de son père. Il le fait pour la bonne conscience. Et vous posez de façon sous-jacente cette question, est-on obligé de s'occuper de ses parents, même quand ils ont été lamentables ?
Ce qui est compliqué, c'est que je suis parent moi-même.
Oui.
Donc s'ils ne veulent plus s'occuper de moi, ils ne le font pas trop encore, mais ça peut être un gros problème maintenant, parce que si on sort un petit peu des sentiers battus, le père, la mère, les enfants, tout va bien, le ciel est bleu, en fait, on s'aperçoit que le ciel n'est pas toujours bleu. Et donc, même si c'est sur une île, on va quand même avoir des problèmes.
Mmh.
Et ils ont des sérieux problèmes dont ils ne veulent plus parler, parce que je pense que ça fait 20 ans qu'ils n'ont plus de contact, que quand ils font un WhatsApp, la fille regarde derrière pour ne pas voir sur la caméra. Donc c'est compliqué, mais la vie est compliquée. Je trouvais que c'était plus simple pour moi, en tant qu'auteur, de les mettre dans le même lieu. Mmh. J'ai toujours ce problème, mais je pense que tous les écrivains ont ce problème, de savoir si je mets les personnages dans un immeuble, je vais être obligé de m'occuper des gens de l'immeuble. Si je les mets dans un désert, au moins là, je vais bien voir ce qu'ils fabriquent tous les deux.
Oui, ils peuvent se perdre.
C'est plus simple.
Oui, c'est ça. Dans ce roman, Philippe Jean, on retrouve votre style efficace, vif, avec des dialogues intégrés qui se fondent dans le récit, des ellipses et des détails étonnants qui donnent une ambiance. Par exemple, j'ai noté quelques phrases, Philippe Jean. Il y a cette phrase, vous écrivez à un moment « Je vacille comme une ampoule sur le point de s'éteindre ».
Je connais ça. J'ai une ampoule comme ça, je vois, que je garde depuis longtemps parce qu'elle ne veut pas mourir. Ouais. Mais elle vacille, elle m'emmerde tout le temps, quoi.
Ou encore celle-ci, « On ne se prend pas la tête d'accord », a-t-elle déclaré, en écartant une luciole qui lui tournait autour. C'est joli, c'est très étonnant de dire ça, je trouve, à chaque fois. C'est votre style, ça, Philippe Jean. Il n'y a que chez vous qu'on trouve ça.
C'est ma poésie, si on veut. C'est pas quelque chose que les autres poètes ont l'habitude de se servir. Moi, ça m'amuse parce que je suis un grand lecteur de personnes comme Raymond Carver, par exemple, qui disait pas beaucoup de choses, mais qui m'en faisait, moi, lecteur, comprendre beaucoup. Donc le geste autour, après une parole, d'avoir un geste comme ça par rapport à une petite luciole, tout le monde comprend, tout le monde sait ce que c'est.
Oui.
C'est une poésie intérieure, c'est pas une poésie qui se montre. Ben voilà. La prochaine fois, je vous trouverai autre chose que la luciole.
Parce non, mais c'est bien la luciole.
Ouais, mais m'en resservir, c'est un peu compliqué.
Ah, ben non, là, c'est cuit.
C'est foutu. Quoi.
C'est fichu. Vous décrivez très bien la tempête aussi, parce qu'on est en plein dedans à un moment. Comme avec cette nature qui se déchaîne, qui défigure le paysage, les humains vont aussi détruire et salir leurs semblables. Il y a cette métaphore dans votre livre, et c'est dans la nature humaine, finalement, de détruire les autres.
Oui, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui.
Hein. Non.
Je pense qu'on a toujours fait ça, qu'on fera toujours ça. L'idée, c'était plutôt de les enfermer quelque part pour qu'éventuellement, ils puissent se parler. Et c'est pas toujours facile, quand on vit, par exemple, à Paris, de se parler. Il faut trouver le lieu, l'endroit, tout ça. Je les ai mis sur une île, déjà parce que je trouvais que j'aimais bien cette idée qu'une tempête allait tout balayer.
Ouais.
En pensant que ça allait après rejaillir. Et en fait, on va finir sur un énorme incendie. Mais c'est dans ma tête, c'est pas des. Je suis pas un auteur réaliste.
Ouais,
je suis pas
vrai.
Un auteur réaliste, je le répète plus près du micro. Mmh. Comme ça, je suis sûr que tout le monde comprend.
Mais ça, c'est votre grand truc, Philippe Jean. Vous avez toujours dit ça. Depuis que je vous connais, ça fait longtemps maintenant, ça nous vieillit, mais ça fait longtemps.
J'ai honte.
Vous avez toujours dit ça.
Chose 40 ans après.
Et vous dites, j'ai pas envie de parler des histoires, je ne suis pas un auteur réaliste. Et pourtant, si, Philippe. Parce que vos histoires, elles sont belles à chaque fois.
Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Là.
Bon, allez, on va voir du côté des libraires ce qu'ils en pensent avec le Canada et la Belgique. Josiane Letourneau, vous avez lu le nouveau roman de Philippe Jean.
Oui, Philippe Jean, j'aime votre écriture aux images parfois inédites qui déjouent les lieux convenus pour les illustrer là où on ne les attendait pas. J'aime aussi cette absence de complaisance, tant du côté des personnages que dans leur rapport. Ils ne s'épargnent pas. Et c'est ce qui donne à cette histoire une grande partie de son intérêt, je trouve. Après, vu l'aspect huis clos, peut-être certaines modifications au niveau de la forme auraient permis de mettre davantage en évidence, mais ça, c'est mon avis, votre talent pour les phrases fortes et imagées.
Ne dites pas ça, malheureuse.
Non, on me dit que j'en rajoute, et moi, j'essaie tout le temps d'en enlever.
Oui,
on va pas se comprendre très, très vite.
Déborah Damblon pour la Belgique, regardez, devant nous, il y a la Tour Eiffel avec une grande verrière.
Oui.
Et c'est à vous. Allez-y.
Eh bien, mazette, hein, je trouve qu'il faut s'accrocher pour faire le voyage avec vos personnages. Mais cela dit, comme dit Josiane, votre écriture, elle est âpre, elle est caustique, elle est comme jetée sur le papier et elle nous aide sacrément à entrer dans le récit. J'ai aussi apprécié que ce soit une tranche de vie, que ce soit tout à fait ancré dans le présent, que même si ce sont des histoires de famille, on n'est pas plongé dans le passé. Alors, votre petite bande, je trouve qu'ils ne sont pas faciles à aimer, mais ils m'ont quand même sacrément bouleversée.
L'idée, ce n'est pas d'aimer forcément les personnages. Il y a des personnages détestables en littérature. Non, je trouve que, au contraire, on les trouve détestables et peut-être que vers la fin, on commence à comprendre qu'ils sont détestables parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils sont solitaires, en fait, et parce qu'ils souffrent.
Il y a même une expression...
Daniela Ferrière.
Il y a même une expression qui relie l'amour et la haine. C'est des personnages qu'on aime à détester.
Eh oui, bien sûr. Souvent, chez Philippe Jean, il y a des personnages qu'on aime détester. Dans 37 de
mais
le matin,
c'est pas gênant, hein,
on n'aimait pas tous les personnages, loin de là.
C'est bien.
Oui. Tant qu'on n'en arrive pas à s'étrangler les uns les autres, c'est bien.
C'est ça. Oui, c'est
parce
ça.
Que souvent, on peut s'affirmer, justement, parce qu'il y a au moins une réponse. C'est pire encore quand il n'y a pas de réponse. Et c'est souvent ce que les personnages, je pense souvent, cherchent la confrontation pour pouvoir se révéler à eux-mêmes. C'est ça le problème.
Mmh. Il y a des personnages.
S'il n'y a rien.
Des personnages féminins très forts aussi dans ce roman, Philippe. Une femme notamment qui est potentiellement dangereuse. C'est Agatha, la femme que doit épouser Jonas. Jonas, il faut savoir que c'est un personnage un peu incertain. Hein,
qui c'est dans sa nature. Il
se marie plusieurs fois. Voilà. Et son père Victor le met en garde. Il lui dit il y a des femmes qui fichent la vie en l'air des hommes.
Et l'inverse est bon. Hein, ce qu'il faut faire maintenant avec l'écriture inclusive, faut aussi, non, il faut parler aussi des femmes. Là, je ne devrais pas le dire, mais ça m'agace un peu d'être obligé de m'arrêter, de chercher, plutôt que de dire, je ne sais pas, les humains, il y a les humains, les humaines, et puis il y a ceux, il y a celles. Ça m'agace. Mmh. Et je suis désolé, à ce niveau-là, je pense que je suis un vieux réactionnaire. L'écriture inclusive m'emmerde.
Ouais.
Et je trouve que c'est anti-littéraire au possible. C'est impossible de lire un texte avec de l'écriture inclusive. Donc pourquoi ils nous embrouillent ?
Bête.
Je suis pas poli. Ouais. Pourquoi ils nous embrouillent avec ça ? Ça change quoi ?
Donc là, c'est pour ça que vous rééquilibrez ? Parce que c'est vrai que c'est à contre-courant de ce qu'on dit en ce moment. On dénonce les comportements des hommes envers les femmes. Mais c'est vrai qu'il existe aussi des hommes maltraités par des femmes.
Bah, bien sûr. Bah, heureusement, parce que sinon, ce sera un monde fade. Il n'y aurait qu'un côté bon et un côté mauvais. Non, c'est bien. Je pense que... Non, il y a des femmes qui sont terribles. Mm. Je trouve même que des fois, alors je ne pourrais peut-être pas dire ça, mais elles peuvent être plus terribles que les hommes. Parce que l'homme, quelque part, il cherche un peu son confort et qu'on ne l'embête pas trop. Les femmes, elles ont toujours un truc, regardez dans Hamlet et tout ça.
Ouais, c'est pareil. Il y a des hommes qui frappent quand même. Hein.
Ouais, non, ouais. Je ne m'en parle pas, pour moi, ce n'est pas des hommes, c'est des connards, tout simplement. Ouais, donc, ça va.
Comme ça. Aimer, se faire aimer, Philippe Jean, c'est un peu le sel aussi de votre écriture, de vos histoires. Entretenir une relation, ce n'est pas donné à tout le monde. On le voit souvent dans vos romans. Tout le monde connaît des pulsions, mais tout le monde n'arrive pas à les transformer en une vraie relation.
Parce que le problème qu'on a, c'est d'arriver à dépasser le sexe. Tant qu'il y aura du sexe dans un couple, ça fonctionnera, mais d'une certaine manière. Mais pour aller plus loin après, ça sera plus compliqué. C'est pas facile de vivre ensemble, mais c'est pas une histoire forcément de couple où ça peut être deux hommes ou deux femmes. Ouais, ouais. Non, c'est compliqué de vivre avec des humains quand on est soi-même un humain. C'est compliqué. Mais ça n'empêche pas qu'il faut essayer de comprendre pourquoi c'est compliqué. Et c'est là où, tout doucement, on peut de temps en temps trouver des terrains d'entente.
Le nouveau roman de Philippe Jean, Faites vos jeux. Vous pouvez applaudir Philippe aux éditions Julliard. Je vous l'ai dit tout à l'heure avant l'émission, pour moi, c'est l'un de vos meilleurs romans, Philippe. Voilà, donc ça n'engage que moi, mais. Prenez-le ou pas. Voilà, merci beaucoup Philippe. Vous restez avec
c'est
nous,
moi
bien
qui
sûr.
Vous remercie.
À suivre Gaël Faye qui est juste à côté de vous avec Marge Nassova ici au Festival du Livre de Paris. On écoute tout de suite un magnifique titre extrait du dernier album en date de Gaël Faye dans la librairie francophone. Voici Qui Bouca avec Samuel Camanzi.
Au-dessus de ces collines s'élève ma voix à jamais. Ô mon petit pays, ô Rwanda bien-aimé. Un million de gouttes d'eau qui tombent de terre en ciel. Un million de nos tombes en trombes torrentielles. De nos fosses profondes à nos points culminants. Nous sommes debout maintenant, les cheveux dans le vent. À conjurer le sort qu'un désastre engloutit. À se dire qu'on est fort, qu'on vient de l'infini.
Je rêve de vous, Qui Bouca, I'm dreaming of you. Qui Bouca, je rêve de vous. Dreaming of you, Qui Bouca.
Je rêve de vous, chanson d'un soir d'ivoire. Je rêve de vous, mes mots sont dérisoires. Je rêve de vous, quand l'histoire nous égare. Je rêve debout, au jardin des mémoires. Et vu que je renais déjà de nos abysses, je fais de nos sourires d'éternelles cicatrices. Et j'arpente la vie, sans jamais oublier qu'un orage en avril, qu'un soleil en juillet.
Tous à ora. Tubashimira, tubazirikana, tubibuka, mu bihe byiza twagiranye, tuzahora tubahesha agaciro, tubibuka n'ubufura ubaranga. Je rêve de vous, Qui Bouca, I'm dreaming of you.
Invaincu, mon souvenir, mes je m'habille de vos rêves. Je rêve de vous, vous mes lumières invaincues. Mon souvenir, mes silences nus. Je rêve de vous, dissipe les ténèbres.
Magnifique titre de Gaël Faye avec Samuel Camanzi, Qui Buca, dans la librairie francophone, ici au Festival du Livre de Paris.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Gaël Faye est avec nous ici sur ce festival avec Magena Sova qui l'a rejoint. Bonjour Magena.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Votre roman donc Petit Pays, sorti en 2016, prix Goncourt des lycéens, est donc adapté en bande dessinée. Une BD magnifique, grand format de 120 pages. Il a fallu du temps pour faire cette BD et vous replonger dans votre enfance entre le Burundi et le Rwanda. Je crois que vous avez commencé l'adaptation en 2017, c'est ça ?
Oui, en tout cas la rencontre avec Magena et Sylvain s'est faite en 2017. Enfin, c'était une rencontre d'abord pour savoir si on s'entendait, si on était sur la même longueur d'onde. Moi, je connaissais le travail de Sylvain qui avait fait ce magnifique album qui s'appelle « Les esclaves oubliés de Tromelin ». Puis j'ai découvert aussi Marzi, donc en bande dessinée, l'enfance de Magena en Pologne dans les années 80. Et je me suis rendu compte très rapidement, au fil de nos discussions, qu'on pouvait partir sur ce projet-là et que je pense qu'on était sur la même longueur.
Vous êtes apprivoisé, en quelque sorte.
Tout à fait,
Mais tout le monde s'entend bien avec vous, Gaël.
Ah non, pas tout le monde.
Vous êtes l'un des artistes les plus gentils que je connaisse.
Ah non, dites pas ça.
Mais je vous assure, ça va nous vieillir aussi, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais vous êtes, depuis les débuts, vous n'avez pas changé.
Ah ben merci.
Non, c'est vrai. Magena, que pensez-vous de Gaël Faye?
J'avoue, tout à fait, on s'est bien entendu, on n'a pas eu de clash, de conflit, tout s'est bien passé. Ouais. Même si ça a pris effectivement beaucoup d'années, c'était un travail énorme déjà pour s'emparer du texte de Gaël et ensuite à Sylvain de créer la charte graphique, en fait, de raconter cet univers. C'est pas une histoire qui s'est passée il y a un an au Burundi, donc il fallait vraiment replonger dans ce pays de cette époque-là. Il y a très peu de documents dont on pouvait se servir, donc on s'est beaucoup appuyé sur ce que Gaël nous a donné comme document.
Alors le texte de Gaël, effectivement, Petit Pays, qui raconte la vie de Gabriel avec ses parents, sa petite sœur et ses copains au moment où le Burundi puis le Rwanda basculent dans l'horreur. Il y a 30 ans tout juste, vous aviez su dans le roman transmettre les émotions de l'enfance et avec cette BD, je trouve que c'est encore plus intense. Et c'était justement cela votre préoccupation avec Magena.
Oui, tout à fait. Je me suis considéré pendant tout le travail comme une ressource, c'est-à-dire quand ils avaient besoin de moi, je fournissais des informations, j'envoyais des photos. Il y avait des discussions, mais j'ai vraiment laissé une liberté totale à Magena et Sylvain. J'avais envie aussi qu'ils s'emparent de ce texte qui, pour moi, c'est une enfance à Bujumbura, mais ça doit être une histoire universelle, parce que quand je lis Marzi en Pologne, je me retrouve aussi.
On s'identifie,
Donc c'est comme ça que ça s'est fait.
Mais c'est vrai que cette BD, comme votre livre, oscille entre la fiction et la réalité. Et malgré le drame terrible qui approche, la vie de Gabriel et ses copains, elle est pleine de joie, cette vie-là. C'était une belle vie pour eux au Burundi et pour vous, Gaël Faye, puisque vous avez vécu à ce moment-là. C'était un peu Tom Sawyer.
C'était l'enfance, c'est-à-dire... malheureusement, on se raconte après les désastres. On parle de nous au moment des désastres ou après les désastres, mais... Pour moi, c'est important aussi d'insuffler la vie avant la machette, avant le gourdin, avant le pneu enflammé autour du cou. Il faut raconter les après-midi d'ennui, il faut raconter les émerveillements. C'est ça qui fait qu'on insuffle tout simplement de l'humanité. On n'est pas des statistiques, en fait, sur un tableau. On est des êtres humains.
Et puis, il y a d'autres êtres humains.
Daniel Laferrière.
Parce qu'au moment même où nous parlons, il y a des enfants qui sont en train de stocker des souvenirs pour devenir plus tard des artistes ou des écrivains ou juste des parents. C'est ça qui est intéressant et qui est toujours étonnant. À chaque fois qu'on est au cœur du malheur et qu'on a la possibilité de narrer ce malheur, on croit qu'il est immobile et figé. On n'a qu'à retourner au pays et puis il y a un petit garçon qui est en train de jouer au cerceau et qui est exactement dans la même position où vous étiez, mais qui se trouve au cœur de ce malheur.
Ouais, ouais. Tout à fait. réservoir à souvenirs. Hein. L'enfance est un réservoir à souvenirs. Il y a une grande émotion dans cette bande dessinée, Magena, quand Gabriel demande pourquoi Hutu et Tutsi se font la guerre. Le père répond, c'est dans les premières pages, ça, parce qu'ils n'ont pas le même nez, alors qu'ils ont tout en commun. Et vous démontrez tout au long, et c'est Gaël qui le fait dans son livre, mais c'est vrai que dans cette bande dessinée, en la scénarisant comme ça, vous montrez effectivement que ces gamins, ils ont tout en commun à la base.
Oui, Petit Pays, c'est avant tout l'enfance. En fait, c'est sur ça que je voulais me concentrer parce que on se retrouve tous dans les émotions d'un enfant. En fait, je trouve que quand on vit dans la vie aujourd'hui, on oublie un peu ce qu'on a vécu quand on était enfant. Et en fait, ce livre se pose là-dessus. Mmh. En fait, ce livre nous révèle à nous-mêmes, à notre enfance, à nos souvenirs, à nos peurs, à nos joies, à nos jeux, en fait, à nos amis d'enfance. Et je trouve qu'il y a ce côté un peu cathartique, en fait, c'est quand ça. On ferme ce livre, malgré toute l'horreur qui finit par arriver. Il y a quand même cette enfance qui est... En fait, l'enfance, c'est un petit pays que chacun devrait garder en soi, en fait.
Vous avez réussi la douceur dans l'abominable. Je vous l'avais déjà dit, je crois, hein, Gaël Faye. On le voit encore. Et encore plus fort avec ses dessins. On va voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de cette adaptation. Ils avaient adoré Petit Pays. On va voir la Suisse, Annick Vermeaux, Gaël Faye en bande dessinée. Ça donne quoi chez vous ?
Alors j'avoue que j'avais mis Petit Pays au fin fond de la pile des à lire plus tard. Car je savais que je ne sortirais pas indemne de cette lecture. Et j'en suis encore toute chamboulée. Délicatement, vous avez semé au travers des cases quelques commentaires ou quelques actions qui, recoupées et assemblées, m'ont explosé à la tête et m'ajouté le cœur. C'est à mon avis un livre essentiel à mettre dans toutes les bibliothèques et à relire quand on trouve qu'un autre est quelqu'un de mauvais.
C'est joliment dit. La Belgique, Déborah Damblon, qu'en pensez-vous ?
Oh, je pense que c'est une jolie, jolie, jolie réussite parce que j'ai à la fois retrouvé ce que j'ai aimé dans le roman. Les personnages, le récit, même certaines phrases, j'ai eu l'impression qu'ils m'avaient touchée. Mais on est face à une BD, à une vraie BD, qui tient la route et qui apporte aussi une dimension supplémentaire en nous faisant ressentir les ambiances et puis en mettant la lumière sur une réalité très crue des événements.
Et puis ces gamins qui ne sont pas d'accord entre eux, parce qu'il y a Gino, il y a Gabriel, et à un moment il lui dit « tu n'as pas d'identité, ton identité est flottante ». Ils appréhendent un peu ce qui va se passer, mais à la mesure de l'enfance. Donc évidemment, c'est très compliqué pour eux. Ils écoutent des conversations. Et par exemple, il y a l'oncle de Gabi qui dira à sa sœur, donc à la mère de Gabriel, ce qu'il ressent au moment du conflit au Burundi et ce qui couve au Rwanda. Il va lui dire, ici, ça sera bien pire qu'une guerre. Et c'est exactement ce qui va se passer.
C'est vrai que moi, quand j'étais petit, j'ai vécu dans la guerre au Burundi. Et puis il y a eu le génocide des Tutsis au Rwanda, donc dans le pays de ma mère. Et lorsque je suis arrivé au Rwanda, vraiment les jours qui ont suivi le génocide, la famille parlait des événements, on disait voilà, il y a eu des événements, il y a eu la guerre, mais on mettait pas ce mot de génocide. Ouais, et donc tout était un peu indistinct. Mais étrangement, il y a quand même des gens qui ont tout de suite su que ce qui s'était passé à ce moment-là était autre chose qu'une guerre.
Et l'insouciance de ces enfants qui vont se baigner nus dans une piscine, par exemple, qui continuent à rire et à jouer en tongs, c'est en contraste total avec les horreurs qui se produisent, avec les massacres qui commencent. Et ça, dans la bande dessinée, c'était le défi d'arriver à retranscrire ça, Magena Sova.
Oui, tout à fait. Mais c'est moi, quand j'ai commencé à travailler déjà sur ma bande dessinée, la toute première, donc Smarzy, c'est mon enfance en Pologne, sous le régime communiste. En fait, au début, j'ai commencé à écrire ce dont je me rappelais. Et en fait, c'était les souvenirs d'enfance qui arrivaient en premier. Et c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans le roman de Gaël. Et Gabriel et ses deux amis, ils le sont aussi, chacun à sa façon. Parce que chacun a sa façon vraiment de gérer, de se débrouiller, de vivre dans ce monde, en fait. Et c'était ça aussi qui était intéressant de voir ces personnages secondaires qui vous influencent,
oui,
aussi, qui créent aussi le personnage principal, ce qu'il dit et comment il se comporte. En fait, c'est comme ça qu'on le découvre aussi.
Et qui développe l'histoire quelque part.
Oui.
100 jours de massacre, près d'un million de morts, le président français Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité accablante de la France, alors allié du gouvernement Hutu dans le génocide des Tutsis. Il a même pointé la communauté internationale qui avait les moyens d'agir et l'État français qui, je cite, n'a pas eu la volonté d'arrêter le génocide avec ses alliés. Presque 30 ans plus tard, qu'avez-vous pensé de cette parole présidentielle, Gaël Faye, vous ?
Bah, elle a tout changé. C'est-à-dire que pendant quasiment 30 ans, on avait une classe politique qui était dans le déni de ses responsabilités. Enfin, ça arrive encore un peu parce qu'on a des tenants de la Mitterrandie qui nous disent qu'il y a d'autres thèses, que tout ça est discutable. Mais non, il y a eu un génocide, qui est le génocide des Tutsis du Rwanda. Et il fallait une parole présidentielle pour officialiser une bonne fois pour toutes cette réalité.
Bon, voilà qui est fait, enfin, dirons-nous.
Oui, tout à fait.
Et les commémorations du 30e anniversaire, c'est incroyable. C'est assez étrange hein, de commémorer l'horreur. Le 7 avril, on a commémoré le début des massacres.
C'est étrange, mais c'est nécessaire, parce que la société rwandaise est une société qui est tournée vers l'avenir, et elle se fait, malgré elle, au détriment des survivants. Et on a besoin aussi d'un temps de recueillement qui dure 100 jours, parce que le génocide a duré 100 jours, pour pouvoir dire aux survivants qu'on est là, qu'on n'oublie pas cette histoire et qu'ils sont partie intégrante de l'humanité. Qu'ils ne sont pas les cafards qu'on a voulu écraser.
Les Yenzi.
C'est un grand débat linguistique, commémorer et fêter. Et fêter, c'est pour dire, pour accueillir l'événement, commémorer, c'est qu'on ne peut pas passer sous
c'est
silence
un tel événement. Exact. Tout à fait. Merci, monsieur l'académicien. C'est important de préciser le sens des mots. Gaël Fay, mesdames et messieurs, avec Magena Sova, Petit Pays, en bande dessinée. Dessiné par Sylvain Savoya, un dessin magnifique, c'est paru chez Dupuis Air Libre. Merci à vous. Voici la chronique de nos libraires.
Émission spéciale, la librairie francophone au Festival du Livre de Paris, Emmanuel Quérade.
La chronique des libraires donc, un coup de cœur en France, très vite Thomas Auxerre.
Alors oui, plus qu'un coup de cœur, un énorme coup de cœur pour Le Roi Telet de Jean-François Beauchemin. C'est paru l'année dernière aux éditions Québec-Amérique. Et là, ça vient de sortir en poche chez Folio, je le montre au public. C'est un récit très intime qui raconte le quotidien de l'auteur qui reçoit à intervalles réguliers la visite de son frère, qui est éprouvé par la schizophrénie et qui nous raconte son monde, ses interrogations. Alors franchement, Emmanuel, c'est un livre sur l'amour fraternel d'une pudeur rare. Moi, comme je n'en ai jamais lu, c'est plein de beauté, d'humanité, de tendresse. C'est un livre qui fait du bien, on en a besoin. Et en plus, c'est en poche pour tout le monde.
Et c'est un Québécois surtout. Alors que le Québec est l'invité d'honneur du Festival de Paris. Bravo Thomas, vous êtes formidable.
Merci.
Le Roi Telet aux éditions Folio. Merci Thomas. Un coup de gueule au Canada, Josiane Nétourneau.
Oui, un coup de gueule en forme de soutien, Emmanuel, parce qu'il faut qu'on se parle.
Allons-y.
C'est magnifique. Vous êtes au Festival du Livre de Paris. Le Québec est à l'honneur. Le champagne coule à flot.
Dites pas non,
j'entends les bulles.
Non, je vous assure que non.
Je les entends. Mais non. Vous savez où c'est aussi la fête? De l'autre côté de la Grande Flaque, au même moment où on se parle, avec plein d'auteurs et d'autrices québécois, au Salon du Livre de Québec, qui a lieu au Centre des congrès de Québec jusqu'au 14 avril. Alors, pour celles et ceux qui sont de notre côté, c'est le rendez-vous à ne pas manquer.
Eh oui, exactement. C'est vrai que ça tombe en même temps. C'est un peu étrange, hein, mais bon.
Mais
voilà,
non, après... pas du tout. Ça montre que la réalité littéraire du Québec est tellement brillante, riche,
c'est vrai.
Qu'elle peut participer dans deux événements. Il y a des pays qui participent dans 10 événements. Alors pourquoi on ne peut pas être deux endroits
Sauf qu'il y a plein d'auteurs qui ne peuvent pas être à Québec en ce moment.
Eh bien, ils sont là où ils sont.
Et ils sont là. Vous y allez demain à Québec, bien sûr, Dany. Non,
j'étais à Trois-Rivières il y a une semaine.
Oui, mais à Québec, ils sont tous seuls.
C'est encore plus petit, Trois-Rivières.
Oui, c'est vrai. Bon, on va pas faire le débat là, mais c'est vrai que
c'est pas un débat, c'est un coup de gueule. Contre le coup de gueule.
Bon, c'est vrai, c'est un coup de gueule. Il va prendre ma place à force, Dany. Je sais qu'il en rêve, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, Josiane.
Vous voudriez mon fauteuil à l'Académie.
Dans un instant, Véronique Ovalde, Dany Laferrière et sa carte blanche avec une invitée surprise. Avant cela, on écoute le nouveau titre de Junior dans la librairie francophone.
À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi? Dans ce silence, est-ce que tu penses parfois? Quand le vide est si dense qu'il ne désemplit. Quoi tu penses? distance on s'habituera. Et l'absence, tu crois, et le chacun pour soi. Avant la prochaine séquence, le prochain faux pas. À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Si je m'avance, renoncer tout et n'importe quoi. Balancer l'indifférence, la crise de foi. Est-ce que tu flanches? Tu penses à moi qui pense à toi. Vers quoi tu penches? Pour revoir l'envers à l'endroit. Quand la nuit est si blanche qu'elle ne dégrise pas. Je le dis sans ambivalence. Quand je suis ici et toi là-bas. J'ai tendance à penser que ça va de soi. Je le dis tout en avance. Quand je suis ici et toi là-bas. Il y a des chances que tu penses à moi, tu penses à toi.
C'était Junior avec Le Silence.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Au Festival du Livre de Paris, avec le public qui est avec nous, bien sûr, qui se manifeste quand il veut. C'est la liberté. Vous êtes chez vous ici. Bonjour Véronique Obaldé.
Bonjour.
Emmanuel. Vous êtes chez vous aussi ici.
Oh ben super.
Et vous êtes là pour un recueil de nouvelles qui vient de paraître chez Flammarion. On frôle le roman car ces nouvelles ont des liens entre elles. On y retrouve des personnages communs avec une certaine Eva Coppa qui fait le lien entre les personnages.
Ah, c'est vrai, c'est celle-là,
oui.
Qui pour vous ferait le lien.
Ouais.
Mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, je voulais écrire des nouvelles depuis toujours. Enfin, j'écris des nouvelles, je suis une lectrice de nouvelles. Mais je sais aussi que la nouvelle, elle a mauvaise presse en France.
Oui, c'est vrai.
Je ne sais pas tellement pourquoi. Si, je sais un peu. Parce que les gens disent, les lecteurs disent, mais c'est frustrant, la nouvelle. Parce qu'en fait, je m'installe, là, et au bout de 20 pages, on me dit, ah, au revoir. Donc, c'est difficile, en fait, ici, chez nous, dans ce territoire, d'installer des nouvelles. Et moi, j'ai voulu contrer, parce que moi, j'adore ça, les nouvelles, mais j'ai voulu contrer, en fait, l'effet frustrant de la nouvelle en faisant passer des personnages d'une nouvelle à l'autre.
Et, c'est ça, exactement.
Et en fait, ce que je me disais, c'est que je pensais à un film... Il y a très longtemps que j'ai vu Shortcuts. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose.
Oui, oui.
Robert Altman, oui. Les années 90, je ne sais plus quand. Il avait repris 9 nouvelles, je crois, de Raymond Carver dans divers recueils. Elles n'avaient aucun lien entre elles, ces nouvelles. Et lui, en fait, il avait fabriqué quelque chose pour, en fait, qu'elles se correspondent les unes aux autres. Qu'on rentre dans le même univers, mais à plusieurs portes.
Avec des courts-métrages qui s'entremêlaient au final. C'est ce que
c'est
vous faites.
C'est 8,5 de Fellini aussi.
Oui, oui,
absolument.
Il y a Auguste Palanquin, par exemple, surnommé Auguste Baraka, qui n'a pas de chance dans la vie, hein, cet homme-là. Quand une fille lui inscrit son numéro de téléphone sur le bras, il s'efface. Vous retrouverez ça dans l'histoire parce qu'il est dans un bain de mousse. Quand il est reçu un concours, c'est un homonyme qui en profite à sa place. Bref, un jour, il décide quand même de prendre les choses en main. Il va se reconstruire dans un studio d'enregistrement car il adore le son, la radio, tout ça, c'est son truc. Ça me rappelle quelqu'un. Et il décide de s'installer dans un bien qui n'est pas adapté, malheureusement. Il n'a jamais de chance.
Mais il n'a pas de chance, lui. Mais vous savez, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'avec quand j'ai écrit ces nouvelles, je l'ai fait avec beaucoup de légèreté. L'avantage, en fait, quand on écrit des nouvelles, c'est, contrairement à un roman, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. On se dit, tiens, je vais m'installer pour 20 pages, 30 pages. Je m'installe avec ces personnages-là. Et puis, peu à peu, en fait, c'est devenu une constellation. Ça a pollinisé, vous voyez ? Et donc, c'était surprenant. En fait, là, il y a 8 nouvelles dans le livre. Je crois que j'aurais pu en faire 45. Et ce qui m'intéressait, c'était que chaque personnage connaissait peut-être un autre et qu'il y avait quelque chose de ludique.
Ouais. Et ils connaissent là-dedans. Des difficultés, tous.
Ils connaissent tous des difficultés. C'est pour ça que ça s'appelle voilà. « À nos vies imparfaites ».
Il y a la fille, justement, d'Eva, Marguerite, qui est une ado pas facile.
Mmh. Pour déjà, une ado, quoi.
Elle change de prénom, elle veut se faire appeler Bob.
Mmh.
Et elle a des difficultés. Elle veut changer sa vie, elle aussi, mais elle n'y arrive pas toujours. En tout cas, il faut prendre le temps, et vous le dites, ça. Il faut laisser le temps venir. Se construire sur le long terme.
Oui, bah, c'est toute la grande histoire de nos vies. Ce qui est particulier là, avec ce personnage-là, de cette Marguerite qui veut devenir Bob et qui finira par devenir Rose, elle change tout le temps de nom parce qu'elle choisit à chaque fois de changer de nom parce qu'elle pense que c'est comme ça, en fait, qu'elle pourra être vraiment une personne si elle choisit qui elle est. Et donc, ce personnage-là, en même temps, c'est une adolescente et les adolescents ont toujours l'impression, en fait, d'inventer l'adolescence.
Ouais. Mais ça ne répond pas à ma question, hein, Véronique.
Ouais.
Non. Se construire sur le temps long.
Oui, mais justement. Vous alors, pardon. Non, mais moi, avancer vous connaissez, c'est que je fais des apartés, j'ai toujours des parenthèses dans tous les sens. Et donc, là, à l'arrivée, évidemment, elle se construit sur le temps long. Au début, c'est cette adolescente qui en a marre de tout et qui rejette tout et qui invente le monde.
Mais ça me fait penser à une autre nouvelle. Et on dirait que Véronique répond à un autre intervieweur qui n'est pas là. Alors tu lui poses une question.
Mais c'est exactement ça. Et en plus, j'ai un co-animateur improvisé qui prend ma place et qui nous met dedans, comme on dit, sur le
mais
temps.
Mais j'adore, ça se complique là.
Ça se complique. Aujourd'hui, je transpire, hein, je vais vous dire. Bon, on va donner
tu
la parole.
Tu veux pas faire un monologue?
Non, mais bien sûr que non. Ben, je donne la parole aux auteurs, moi, vous savez, mais j'aime bien qu'on réponde aux questions. La Suisse ou la France?
La Suisse.
La Suisse. Allons-y, Annick Vermeaux a lu votre recueil de nouvelles. Allons-y, Annick.
J'ai trouvé à la lecture de votre livre une belle mélodie dans vos mots et beaucoup de poésie dans vos descriptions. Bien que votre récit soit un subtil entrelac d'histoires qui se répondent, je me suis malgré tout ennuyée. Il m'a fallu une vraiment bonne dose de chocolat pour me motiver à rencontrer vos personnages qui, hélas, ne m'ont guère séduite pour finir ma lecture.
Oh, j'aurais dû choisir la France. Non, peut-être pas d'ailleurs.
Je découvre en même temps que vous, hein, parce qu'ils sont totalement libres, les libraires ici. Ne me regardez pas comme ça, j'y suis pour rien. Je suis désolé pour vous. La France, Thomas Hausser, sauvez Véronique Ovalde, s'il vous plaît.
Oui, je vais la sauver, parce que moi, j'ai beaucoup aimé votre livre, Véronique. C'est réjouissant, c'est candide, c'est très enjoué, avec de chouettes leçons de vie. Moi, vous avez réussi à me faire adhérer à chaque nouveau personnage qui nous est proposé en les liant, en tout cas en liant leur vie en pointillé. Je crois que c'est surtout dû aussi à la malice et au côté très interactif de vos écritures, avec un ton assez unique. Vos héros prennent à témoin le lecteur, le tutoient et lui demandent son avis. Moi,
oui,
déjà, j'adore ça.
Oui. Voilà. Bon, c'est partagé. Vous faites débat. On applaudit Véronique Ovalde.
Mais vous savez que les lecteurs aiment ça. Moi, quand j'entends qu'on conteste un livre, et ça m'intéresse plus. J'aimerais savoir pourquoi elle a détesté, pourquoi il a aimé. Mmh. Et ça fait comme un dialogue
exactement,
à trois.
Exactement, c'est vrai. Avez-vous une question pour Véronique Ovalde?
Non, j'ai une réponse.
Allez-y. Parce que moi, je ne peux plus poser mes questions. Moi, vous voyez, j'ai une page pleine. C'est
continue.
Non, allez-y, je vous en prie.
Non, ça va.
Bien.
Ça
va. Les personnes imparfaites, c'est un peu votre marque de fabrique, Véronique Ovalde. Dans tous vos livres, on trouve ça. On est tous imparfaits. C'est un peu ce que vous nous transmettez. Sauf que, qu'est-ce que c'est un être imparfait?
Bah, c'est ce qu'on est tous, en fait. C'est l'extraordinaire qui arrive dans nos vies ordinaires. Nos vies imparfaites, c'est parce qu'en fait, on est tous d'anciens enfants prometteurs. Il me semble. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quand on est enfant, on est une promesse. Donc, on est tous d'anciens enfants prometteurs. Et puis, bah, voilà, après, à l'arrivée, on est soit déçus, soit décevants.
Mais les imperfections, Véronique Ovalde, sont peut-être des qualités? Et un être imparfait est peut-être parfait aux yeux d'un autre qui serait moins parfait que lui.
Oh là là, ça se complique.
Je vous laisse avec cette...
Emmanuel, là, il m'a laissé dans la pampa, là.
Dany va venir à votre secours, bougez pas.
Allez, Dany. Non, à Dany. Dany abdique. Donc, bah, je suis toute seule avec cette remarque d'Emmanuel.
Est-ce cruel d'être imparfait?
Non, c'est la lucidité, la causticité nous aide à faire avec nos imperfections. On est tous imparfaits. Voilà, c'est un constat. Et puis, il faut s'en accommoder.
Bon, on termine avec une histoire de dodo. Vous savez qu'on aime beaucoup le dodo dans cette émission, car on est très proche de l'île de la Réunion, par la pensée, par les émissions aussi. Une histoire autour du dodo, donc l'oiseau emblématique de la Réunion et de l'île Maurice. Un taxidermiste va essayer d'en reconstituer un, comme dans les musées. Car il faut savoir, en tout cas vous le dites dans votre livre, j'ai pas vérifié si c'était vrai, mais les dodos empaillés n'existent pas.
Non, ça n'existe pas.
Pourquoi?
Ce sont des chimères. Bah, parce qu'en fait, le dodo a disparu au XVIIe siècle. Et grâce à la volonté et la négligence et la désinvolture des humains. Et donc, les dodos n'existent plus, évidemment, depuis fort longtemps. Et il n'y a plus, en fait, de dodo à empailler. Donc, celui que vous allez voir dans les muséums à droite à gauche, c'est à chaque fois une chimère. Parce qu'en fait, son bec est fabriqué avec une corne de buffle. Mmh, ouais. Ses pattes sont des pattes d'émeu. Ses plumes... Là, je suis en train de mimer, en plus. Hein. Donc là, c'est sur la radio, mais je suis en train de mimer.
Vous faites le dodo.
Donc, je fais le dodo. Mmh. Donc, il a des plumes, en fait, de Nandou, par exemple. Donc, en fait, ce sont des chimères. Donc ça, c'était fascinant, pour moi. Cette espèce de bestiole, en fait, qui ne peut plus être là et qui est, en même temps, le symbole absolu de notre façon de fabriquer le monde et de le détruire gentiment. Ouais.
Le pauvre dodo qui avait des ailes atrophiées, hein, faut connaître l'histoire.
Il avait des ailes atrophiées.
C'est que les humains s'approchent des dodos quand ils arrivent à Maurice et à l'île de la Réunion et ils s'aperçoivent que ces bestioles là, viennent vers eux, sont très sympas. Et
parce qu'il n'y a pas de prédateurs.
Et ils ne se sauvent pas. Donc
ils
on les tue tous, on les mange.
Parce qu'ils n'ont pas de prédateurs.
C'est horrible. Et le dernier défenseur des dodos, c'est les Clésio.
Oui, c'est Jean-Marie Gustave le Clésio. C'est vrai.
Et là-bas, il n'y avait aucun mammifère à part la chauve-souris. Donc ouais. En fait, ils étaient tranquilles.
Merci. Véronique Ovaldé, avec son dernier livre, À nos vies imparfaites, aux éditions Flammarion. Vous avez été parfaite imparfaite, Véronique. Bravo.
Tout ce qu'il faut.
Merci à vous.
Enfin, j'espère.
Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour. Si j'avais des lumières sur mon bike, je partirais pour. Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai mes lumières pour ma vue. Et je roulerai dans la nuit en chantant cette jolie mélodie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Cette musique de Robert Charlebois, Les ailes d'un ange, qui fait danser Dany Laferrière, le Québec est l'invité d'honneur de ce Festival du Livre de Paris. Nous avons donné carte blanche à Dany Laferrière pour inviter l'un des auteurs présents sur le festival. Et vous avez choisi...
Bien, Gabriel Filtoshiba.
Gabriel Filtoshiba. Bonjour, Gabriel.
Bonjour.
Alors, je me souviens d'un moment avec vous. J'ai découvert votre nom ce matin, hein, parce que je ne voulais pas savoir. Dany Laferrière a monté cela avec mon équipe.
C'est un nom qui sent bon la forêt.
Oui. Alors, je vais raconter une histoire dans la forêt, d'ailleurs. Pourquoi Gabriel Filtoshiba? Pourquoi cette invitée?
Parce qu'elle représente un peu le meilleur de ce que nous faisons en ce moment au Québec. Et parce qu'elle écrit et parce qu'elle est.
Alors, c'est vrai que vous êtes un être incroyable, Gabriel. Je me souviens d'un reportage avec vous, dans une forêt à proximité de Montréal, en plein Québec. Et on avait enlacé un érable. Vous m'aviez montré des arbres et vous me disiez, moi, j'ai besoin d'être en contact avec les arbres. Et tous les deux, on était restés collés à un arbre en plein hiver. Vous vous souvenez de ce moment?
Oui, puis on a tous besoin d'être en contact avec les arbres, j'aimerais ajouter. On serait tous de meilleurs humains.
Qu'est-ce que vous voulez dire à Gabriel Filtoshiba?
Merci pour la fleur que vous faites, d'ailleurs. C'est très gentil. Merci.
Ben, d'ailleurs, il y a une phrase de Jacques-Séphine Alexis qui commence la lettre qu'il a écrite à Jacques Roumain le lendemain de sa mort. « Les hommes sont des arbres qui marchent. » Ce que je voulais dire à Gabriel, sinon c'est juste des questions à partir de textes que j'ai écrits.
Ah oui, d'accord.
Alors, j'aimerais bien faire une carte. Il y a des cartes oui. De cela. La première carte dit... Et vous allez réagir, écrire un jour un livre qui mérite l'arbre qu'on a dû abattre pour le fabriquer.
Tout à fait, parce que on oublie parfois que la littérature puis ces objets subversifs que sont les livres nous viennent des arbres. C'est la pulpe de bois, c'est le papier. Moi, je sens peut-être c'est le fardeau de ma génération, mais je sens une grande culpabilité quand on me dit on réimprime. J'ai une joie. C'est sûr, j'ai une joie parce que je me dis, je vais pouvoir peut-être acheter une plus grande forêt, je vais pouvoir protéger plus d'hectares, mais on doit abattre des arbres pour pouvoir se parler et que, d'une génération à l'autre. Donc, oui.
C'est vraiment l'histoire de vos romans, ça, hein, Gabriel Filtoshiba, parce que votre trilogie En cabanée, Sauvagine et Bivouac sont des odes à la nature. Ce sont des romans écologistes militants, on peut dire ça, hein.
Oui, tout à fait. Puis j'avais envie de raconter ma propre évolution en tant que militante. Moi, j'ai commencé par être une ermite, un peu à la Henri-David Thoreau. Hein. Je suis allée me cacher en forêt parce que j'en pouvais plus de la société, j'en pouvais plus du bruit, de la pollution. Mais je pense qu'il faut faire communauté pour réussir. Ça prend la force du nombre. Donc, dans la trilogie, on suit des personnages qui d'abord sont solitaires, puis finissent par s'allier autour de la grande cause. Qui est la protection de nos forêts anciennes.
Une phrase que vous avez dit tout à l'heure, qui pourrait paraître une métaphore, qui est une réalité. Vous vouliez acheter une forêt.
Oui.
Oui, ben pour la protéger. Je l'ai fait toute jeune. J'ai eu la chance de pouvoir mettre la main sur une cabane qui était un ancien camp de bûcherons, mais qui venait avec 16 acres, à peu près 4 hectares de forêt sauvage. Puis, en vieillissant, puis en écrivant d'un livre à l'autre, j'essaie de protéger de plus en plus grand. Mais présentement, je suis sans forêt, alors je fais appel à vous, tout le monde. Achetez la forêt barbelée et je vais protéger plusieurs hectares en votre nom.
Très bien. Il y a des forêts ici à Paris, puisqu'on est à Paris. La forêt de Fontainebleau, la forêt le bois de Boulogne, tout ça, on peut acheter ça si vous voulez.
Oui, mais pas moi.
Service public, moi.
Pas encore.
Service public.
Vous faites face à une superficie qui dépasse l'entendement. Le Québec fait 1 700 000 km². Donc, ça veut dire trois fois la France, plus la Belgique et le Luxembourg.
Et donc, on porte une immense responsabilité de protéger ce qui reste.
Il faut lire les livres de Gabriel Filto-Shiba. Vous êtes publié chez XYZ au Québec et aux éditions Stock pour la France et l'Europe. Merci beaucoup d'être venu en invité surprise.
Merci,
merci à Dany Laferrière. Vous pouvez applaudir Gabriel Filto-Shiba, grande autrice du Québec, qu'on va enfin découvrir, je l'espère, le plus largement possible à travers toute la francophonie. Dany Laferrière, vous publiez en poche « Faites chez Oki » aux éditions Zulma et une anthologie de vos œuvres américaines chez Bouquin. Et vous avez aussi habillé le Pont des Arts avec vos dessins, un événement réalisé dans le cadre du Festival du Livre de Paris en ce moment même.
Oui, tout à fait. C'est il y a quelques années, après le tremblement de terre et ensuite après mon entrée à l'Académie, j'étais comme fatigué de tout, fatigué d'entendre des voix et je me suis mis à dessiner. Et voilà, ces dessins, j'ai écrit 5 livres ou 7 livres, j'ai oublié. Ils sont maintenant sous le Pont des Arts et devant l'Académie française en une exposition qui a été faite aussi à l'ONU.
Merci Dany, voici la seconde partie de nos libraires avant de conclure.
Émission spéciale, la librairie francophone au Festival du Livre de Paris, Emmanuel Quérade.
Allez, un coup de gueule en Suisse, Annick Vermeaux.
Le grincement de dents de cette semaine a été pour le Pâte de Mouche des éditions de l'association intitulée Une aventure, qui a plus été un calvaire visuel pour moi qu'une aventure. J'essaye d'avoir l'esprit ouvert et de voir la part artistique réalisée dans les ouvrages. Mais là, j'avoue sécher complètement face à ce que je comparerais à des gribouillis téléphoniques. Et j'ai bien soupiré en regardant cet ouvrage.
Bon, ça s'appelle quand même Une aventure et c'est aux éditions de l'association, belle maison d'édition, collection Pâte de Mouche. Merci Annick, enfin merci, pas pour eux en tout cas, la Belgique des Bois d'Amblant, un coup de cœur.
Oui, Emmanuel, est-ce que vous dites bonjour quand vous posez une question à ChatGPT?
Ah mais je fais pas moi chat.
Mais oui, machin. Mais vous avez donné un petit nom à votre Vespa avec mixeur.
Non, pas du
grippe,
tout. Non.
Je suis sûre,
mais
vous
non.
Pouvez avouer.
Mais
on est des tas à donner de noms à
faut,
nos
faut
appareils.
Il faut terminer l'émission, Déborah.
Eh bien, dans ce livre, Bonjour ChatGPT, Louis Diesbach, eh bien, il nous parle de notre rapport aux intelligences artificielles.
Oui.
La bonne place à utiliser, ce qu'elles ont comme influence sur nous. Ben,
d'accord.
C'est passionnant.
Ah ouais.
Et puis c'est parfois même drôle.
Bon, c'est aux éditions Mardaga.
Exactement.
Merci à vous, merci à tous nos invités, merci Gaël Faye, merci. Merci à tous, merci au public
merci
de Paris aussi, évidemment. Pour conclure, le son de l'outre-mer avec la réunionnaise Gwendoline Absalon. un extrait de Kif Kif de la réunionnaise Gwendoline Absalon. Et c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve sur Facebook, Instagram et X pour communiquer avec vous. À la réalisation,
Dany Laferrière. Dany Le Prince.
David Le Prince.
Oh ben voilà. Il a dit Dany, je... On fait un dialogue sans cesse avec Christophe Papon et l'équipe d'Alain Fauché ici au Festival du Livre de Paris. Thierry Dupin à la programmation musicale.
C'est bien, un grand merci à Jean-Philippe Verret à la rédaction et Christophe Majer avec Constance Gonin et les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, nous serons avec le grand écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop et avec Anthony Delon qui sera avec nous pour son premier roman et que son premier roman, je précise. Vous le verrez ensemble.
Et entre... un dialogue entre nous encore. Qui
vous voulez venir ? Allez, si vous voulez. Bonne semaine à vous.
Tout le temps.
Bon week-end. Merci Paris, merci beaucoup.